Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au cours de ces deux semaines qui vont nous mener à Pâques, nous allons vivre toujours plus intensément notre carême, mais tout spécialement, nous allons vivre plus intensément avec le Christ. Parce qu'un carême qui ne serait qu'une sorte d'ascèse humaine, une mortification purement temporelle et qui n'aurait pas de rapport intrinsèque avec le Christ, serait voué à l'échec. Notre religion est une religion christique. Nous devons donc toujours plus intégrer le Christ en nous, nous intégrer dans le Christ, vivre avec le Christ. En fait, ne faire plus qu'un avec le Christ. Et pour cela, il nous faut rentrer dans les sentiments du Christ. Et c'est ce que dit saint Paul, nous devons revêtir le Christ. Comment le revêtir? Eh bien, en vivant avec lui, en passant par là où il est passé. Et donc, cela se fait par la méditation, cela se fait par la prière, en voyant comment le Christ a agi, et puis aussi, à la messe, eh bien, en essayant de toujours plus comprendre l'Évangile et voir ce qu'il en est de la personne même du Christ, parce qu'on ne suit quelqu'un que si on le connaît, que si on l'aime. Nos regards doivent donc se porter pendant ces 15 derniers jours de carême avec plus d'attention sur la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ. 15 jours, c'est peu. Mais si nous savons profiter de notre temps, du temps que Dieu nous donne, et nous avons un jour à rendre compte du temps que Dieu nous aura donné, eh bien alors, nous progresserons dans l'intimité avec le Christ. Et notre progrès spirituel en sera toujours plus grand. Notre amour de Dieu ne sera alors pas sec ou vide, mais très réel et très riche. Pour suivre le Christ, comme je le disais, il faut le connaître et il faut l'aimer. Alors, pour le connaître, eh bien, notre Seigneur nous a donné des indications. Des indications, il nous a donné même une révélation sur sa propre personne. Et nous devons croire en lui. Nous devons découvrir et adhérer au mystère de sa personne divine dans la foi. Et tous les jours, nous devons répéter cet acte de foi envers notre Seigneur. Et que nous dit notre foi? De manière très juste, mais peut-être de manière un peu théorique, elle nous dit, quand notre Seigneur, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, incarnée, il y a la nature divine et la nature humaine. Tout le monde n'étant pas capable de faire une belle méditation sur cette dualité des natures et sur cette unité de la personne, eh bien notre Seigneur est venu sur la terre et il nous a délivré aussi un enseignement pour que nous puissions méditer ces paroles. Alors, que nous dit l'Évangile? Eh bien l'Évangile de ce jour est là pour nous montrer le Christ en vérité, dans un dialogue extrêmement tendu avec les Juifs qui l'interrogent et notre Seigneur répond et se présente comme étant Dieu lui-même. Alors, pas tout de suite, parce qu'il amène toujours l'esprit de ses interlocuteurs à accueillir sa parole. Mais ici, la difficulté, c'est que plus il parle, plus ses interlocuteurs se braquent. Parce que, eh bien, il sent bien que ce qu'il va dire, que ce qu'il va, il va s'affirmer dans son identité, n'est pas seulement une identité de Messie, mais c'est une identité divine. Et cela représente pour les Juifs un scandale et un blasphème qui va entraîner immédiatement une lapidation à laquelle notre Seigneur échappe parce que son heure n'est pas encore venue, mais celui qui se fait Dieu, celui qui se dit Dieu, mérite la lapidation. Il n'y a rien d'humain qui puisse se dire Dieu. Néanmoins, notre Seigneur, pour nous, eh bien, nous aura appris beaucoup. De manière extrêmement explicite, notre Seigneur affirme sa divinité. Et d'abord, parce qu'il est grand pédagogue avant tout, il va leur rappeler qu'il est absolument sans péché. Et remarquez bien la démonstration, nous disons qu'il est sans péché, il ne peut pas mentir. S'il ne peut pas mentir, c'est donc qu'il dit la vérité, qu'il va dire la vérité. Or, personne ne va réussir à le prendre en défaut. Personne ne va pouvoir l'accuser d'avoir péché. Et donc, ils auraient pu être amenés, au niveau de l'intelligence, à poser un acte de foi. Néanmoins, ils se braquent. Alors, notre Seigneur poursuit sa démonstration, quoi qu'il en soit, quoi qu'il lui en coûte même. Et à la fin, il fait cette affirmation absolument incroyable pour une oreille humaine. En vérité, je vous le dis, et cela n'est pas une petite phrase, lorsque le Christ dit cela, c'est un enseignement en tant que docteur, en tant que maître, une révélation véritablement. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Aussi, Abraham a été presque plus de 5 siècles au-delà de notre Seigneur Jésus-Christ, avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ici ce verbe absolument incroyable, « je suis ». Pour un juif, et je le dis souvent et régulièrement, excusez-moi de me répéter, mais pour un juif, le « je suis », c'est quelque chose qui les touche particulièrement parce que c'est la révélation du nom de Dieu à Moïse. Quand Moïse, sur le mont Sinaï, demande à Dieu son nom, au nom de qui je vais m'adresser aux Hébreux, Dieu lui donne son nom, je suis. Aussi, quand notre Seigneur emploie ces paroles, eh bien, il proclame le nom de Dieu. Aussi, il dit qu'il est véritablement le Dieu qui était au mont Sinaï et qui s'est révélé à Moïse. Aussi, cela constitue-t-il un blasphème pour les Juifs. Donc notre Seigneur est véritablement Dieu. Et nous devons toujours plus l'adorer comme Dieu. Notre réponse de foi, et notre réponse doit, à cette affirmation du Christ, doit être une réponse de foi. Et cela est d'autant plus important que c'est la divinité du Christ qui va assurer à son sacrifice une valeur extraordinaire. Sinon, son sacrifice n'aurait servi à rien. Cela aurait été le sacrifice d'un être humain, un simple martyr. Mais le Christ n'est pas un martyr. Le Christ, c'est Dieu qui donne sa vie pour nous. C'est bien au-delà d'un martyr. Son sacerdoce aurait été vain. Lui qui offre sa vie au Père n'aurait pas eu les qualités requises pour offrir un sacrifice qui puisse être agréé du Père, parce qu'il n'aurait pas été Dieu. Il aurait été juste un simple homme, et il se serait inscrit dans la continuité des sacrifices qu'ont réalisés les humains depuis Abel jusqu'à celui qui était Saint Jean-Baptiste, offrant, j'allais dire, sa propre vie lui-même en témoignage de la parole de Dieu. Donc, une portée purement humaine qui ne nous aurait pas ouvert le ciel. Donc le Christ est aussi vrai homme, mais ce qui fait la portée de son activité humaine, c'est qu'elle est animée par la divinité. Il est vrai homme, il peut donc être le véritable prêtre, il peut donc être la véritable victime. Il est le souverain prêtre, celui qui offre le sacrifice par excellence. Seul sacrifice agréé du Père, sacrifice qui dépasse tous les sacrifices de l'Ancien Testament en valeur et en efficacité, à tel point que il met un terme final à tous les sacrifices. Il n'y a désormais plus qu'un seul sacrifice, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à la messe, c'est bien un sacrifice qui est réalisé, mais non pas un autre sacrifice que celui-là même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que c'est le renouvellement non semblant du sacrifice de la croix. Il n'y a pas deux sacrifices, il n'y a pas 1000 sacrifices, il y a un seul qui est représenté à nos yeux. Et enfin, notre Seigneur est la propre victime, nous dit Saint Paul. Il sort, il offre, il est entré dans le ciel avec son propre sang, non pas celui des boucs et des hélices qui n'ont aucune valeur, mais son propre sang qui a une valeur infinie parce que c'est le sang d'un Dieu. Il est la propre victime de son sacrifice, c'est son sang divin qui nous a sauvés. Et son sang va être répandu une fois pour toutes, nous dit l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes, sur la croix. Et ensuite, la messe ne sera comme qu'un canal qui va nous permettre de récupérer, de répandre sur nous le sang versé une fois pour toutes à la croix. Voilà ce qu'il nous faut vivre, mes bien chers amis, dans la foi. Le Christ, vrai Dieu, et le Christ, parce qu'il est vrai Dieu, est victime sans tache, victime pure, victime absolue, et en même temps grand prêtre qui a tous les privilèges de l'innocence. Comment peut-être rentrer toujours plus profondément dans cette méditation en étant accompagné, et je vous le conseille pendant ces 15 jours qui viennent, par la très sainte Vierge Marie. Essayez de vivre avec elle cette méditation sur le Christ. Par sa maternité divine, elle devient mère de Dieu. Elle devient mère d'une personne divine, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Aussi, l'aspect de divinité, eh bien, elle l'a cru. Elle en a vécu. Donc, il faut prendre, j'allais dire, intégrer son propre regard pour porter un regard vrai sur la divinité du Christ. Et en même temps, elle est celle qui a mis au monde le souverain prêtre. Elle est donc mère de tous les prêtres. Et j'allais dire, elle n'est pas prêtre elle-même. Et donc, pour tous les baptisés, elle devient un modèle parce que, eh bien, elle nous montre comment être en relation intime avec le Christ souverain prêtre. Chaque baptisé s'unit au sacrifice de la croix, s'unit au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, eh bien justement, elle va donner cette victime. Elle va la faire naître, cette victime. Et alors, elle va aussi l'offrir. Eh bien, nous devons intégrer tous ces sentiments de la très sainte Vierge Marie, vivre en union avec elle, puisque son cœur, eh bien, a été le plus uni avec celui de notre Seigneur. Et si nous savons faire cela, si nous savons rentrer dans cette dynamique de la passion, alors nous vivrons intensément tous ces jours qui s'offrent à nous et nous grandirons avec notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.